Moi, je bénis le Seigneur qu'il a fait que Étienne ait insisté pour venir. C'est phénoménal. Vous allez voir pourquoi. En fin de compte, on ne peut pas être proche de Dieu. Voilà, c'est pour ça que je voulais dire. C'est impossible. On ne peut pas être proche de Dieu. Est-ce que vous êtes d'accord? On ne peut pas, c'est pas possible. C'est vrai ou c'est pas vrai? C'est faux. Amen. On peut être proche de Dieu. Et gloire à Dieu, on peut être proche de Dieu. Est-ce que je voulais ajouter par rapport à ce que José a dit tout à l'heure, c'est Dieu vous aime. Il faut vous... Mais ce que la terre entière pense de vous, il faut absolument pas y prêter attention. Ce qu'il faut prêter attention, c'est est-ce que Dieu m'aime ? C'est ça. Et Dieu vous aime. Sinon, vous ne seriez pas là ce matin. Alors, la grande question, c'est est-ce que je suis proche de Dieu ? Est-ce que Dieu peut être proche de moi ? Est-ce que... Ben, c'est incroyable parce qu'on va... Vous savez, Jeannette a lu l'Apocalypse et moi, je vais retourner dans l'Apocalypse. Étienne est venu entre-temps, il a parlé du fait d'être proche de Dieu. Et dans Apocalypse, chapitre 4, verset 1, l'Éternel dit à Jean... « Monte ici et je te ferai voir ce qui doit arriver par la suite. » Monte ici. C'est une invitation. Il élève Jean. D'où cette idée vraiment d'être proche de Dieu. Il rapproche, il élève Jean près de lui. Et c'est pas parce que c'était Jean, parce qu'il le fait avec chacun d'entre nous. Vous savez, je vais vous raconter... Dans 2 ans, on pourra dire les mêmes paroles que Charles Aznavour dit dans une chanson, « C'est un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître ». C'est le temps du service militaire. Dans le temps du service militaire, pour ceux qui l'ont fait, il y avait ce fameux parcours du combattant, qui est une distance de 900 mètres, sur lequel il y a les pires obstacles qu'on puisse imaginer. D'ailleurs, on finit à la fin sur les rotules. Et... vers la fin, avant la girafe, avant la fosse à char et le labyrinthe, il y a 2 obstacles qui sont terribles. Et j'ai l'impression que les militaires étaient assez vicieux pour les mettre à cet endroit-là, parce qu'ils savaient qu'à cet endroit-là, on n'en pouvait plus. Vous imaginez, moi je faisais 1m64, j'ai rapetissé. Bientôt je vais tenir dans ma poche prochainement. Bref, on arrivait devant le mur, qui faisait 2 mètres de haut, et après, il y avait la fosse qui faisait 2,20 m de profond. Donc, il fallait enchaîner le mur et la fosse. Le mur, il n'y avait aucun problème, j'y arrivais. La fosse, et il faut savoir que dans toutes les épreuves militaires qu'on passait, le parcours du combattant était éliminatoire. Il y avait un prof de sport qui m'avait dit, il s'appelait Belmonte. Pascal, il dit, si tu veux réussir, il faut enchaîner le mur et la fosse sans t'arrêter. Tu passes le mur, tu tombes dans la fosse et tu ressors tout de suite. Moi, j'avais essayé, miracle, à chaque fois, ça fonctionnait. Tous ceux qui s'étaient arrêtés pour reprendre leur souffle entre le fait de tomber dans la passer le mur et tomber dans la fosse, ils restaient dedans. J'ai jamais compris pourquoi, mais ils restaient dedans. Alors, ce qui est incroyable, et le Seigneur m'a mis ça à cœur, c'est que dans la vie spirituelle, c'est exactement la même chose. Si on s'arrête dans notre élan, vous savez, il y a la conversion, il y a ceci, il y a cela, et si on s'arrête, on aura énormément de mal à repartir. Il y a ce temps d'arrêt qui est, je ne peux pas dire mortel, mais qui est très, très difficile. Et il faut bien penser à une chose, c'est que dans nos actes, il faut toujours tendre à aller plus haut. Oh, et dans cette invitation, il faut voir que un jour, Dieu nous dira, mon ami, viens ici plus haut. Il nous appelle à être élevés. Et la règle d'or lorsqu'on est tenté, parce que beaucoup de gens pensent que parce qu'on est tenté, on n'est plus tenté dès qu'on est chrétien. C'est faux. Moi, je vous dirais que c'est carrément l'inverse. C'est là où on est le plus tenté. Donc, beaucoup pensent que, disons que quand on est tenté, on est invité à aller plus haut. C'est-à-dire à dépasser les tentations. Et il faut savoir une chose, et on l'oublie souvent, c'est que Satan a élevé Jésus. Il l'a tenté, il l'a élevé. Ah, vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'il est en train de me raconter? Ben, si vous lisez Matthieu 4, verset 8, le diable le transportant encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Si on vit avec le monde, Satan peut nous élever dans le monde. Il nous élève dans le monde. Et en fin de compte, on perd toute notion du christianisme, on perd toute notion de l'œuvre de Jésus-Christ. C'est ce que disait exactement Étienne. Où on n'a plus cette proximité avec Dieu. Et parce que tout ça, on s'est laissé élever par Satan. Dieu nous élève, mais les intentions sont totalement différentes. Ça n'a rien à voir. Et là, je dis amen. Parce qu'il va nous pousser à un idéal que on ne peut pas reproduire. C'est impossible. C'est au-dessus des possibilités humaines. C'est-à-dire qu'en nous élevant, Dieu fait de nous des saints. À partir du moment, déjà, lorsqu'on reconnaît Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur, Jésus a dit, vous êtes saints parce que je suis saint. Et moi, je remercie le Seigneur que l'humain est incapable de reproduire cette sainteté. Incapable. Si, il va le faire 2-3 jours. Et au bout de 2-3 jours, le naturel va ressortir. Mais comment on peut voir que vous, moi, on est saints? Comment on peut voir? Il y a une explication qu'on est en train de voir le mardi, en détail. C'est ce qu'on appelle le fruit de l'esprit. Vous savez, c'est tout un pack qui nous est livré dans la parole. Et on a l'impression que c'est difficile. En fin de compte, ce n'est pas difficile du tout. Si on commence à obéir à la parole de Dieu, si on commence à se laisser élever, on lit Galates 5, verset 22. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité ou la bienveillance, la fidélité, la douceur, la tempérance. Il y a des gens, quand ils écoutent ça ou qu'ils lisent ça, ils disent mais comment je peux arriver à cette sainteté? Je peux vous dire une chose, que ceux qui sont en Christ, ils ont le fruit de l'esprit, ils s'en aperçoivent absolument pas du tout. Pourquoi? Parce que c'est devenu naturel chez eux. C'est devenu naturel. Et ce qui arrive en Galates 5, 22, c'est ce que Dieu veut faire avec vous en vous élevant. Il va vous transformer. D'où l'importance de marcher selon l'esprit. Et si on marche selon l'esprit, on ne va pas appliquer les désirs de la chair. Et ça, c'est un verset encore en Galates 5, verset 16. Qu'est-ce que c'est marcher selon l'esprit? On peut se poser cette question. Oui, d'accord, on dit, je me suis converti, j'ai reçu l'esprit. J'ai reçu l'esprit. Est-ce que ça suffit? Qu'est-ce que marcher selon l'esprit? C'est se conduire et agir grâce à la puissance effective de l'Esprit qui habite en nous. C'est-à-dire que ce n'est plus nous qui vivons, mais c'est l'Esprit qui vit en nous. D'où, justement, le fait qu'on a l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur, la tempérance. À partir du moment où on laisse l'Esprit vivre à notre place, tout le reste devient naturel. Le fruit de l'esprit apparaît. C'est pas difficile. C'est absolument pas difficile. Alors en Éphésiens 1, 2, 3, bien sûr, parce que, bien sûr, tout ce qui était naturel, tout ce qui était propre à notre conduite, ça s'éclate, ça s'en va. Et en Éphésiens 2, 3, il dit « Nous tous aussi, nous étions de leur nombre et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et nos pensées, et de nos pensées, nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. » Mais il y a un petit mot qui est très important. « Autrefois ». Parce qu'aujourd'hui, en Christ, il n'y a plus rien du tout. Ça n'existe plus. Alors il y a une chose qui est primordiale et extrêmement difficile à faire. Mais il faut passer par là, c'est faire mourir le moi. Mourir à soi-même, annihile les œuvres de la chair. Et ce qui est important, j'en discutais avec Arlette, et Arlette m'a souligné quelque chose, je ne savais pas comment le dire. Elle m'a dit simplement, les tentations existent toujours. Et moi je dis merci Seigneur que les tentations existent toujours. Mais ce qui alimentait les pulsions, c'est-à-dire le fait de répondre aux tentations, elles ont été détournées par Jésus-Christ. Les tentations arrivent, mais Jésus-Christ nous a rendus capables d'accomplir les désirs de la chair. Il n'y a qu'en Jésus-Christ. Tout le reste est coupé. Tout le reste, les gens qui vont vous dire dans la ville, ou alors de bons chrétiens, vous tombez sur « moi je ne suis plus tenté, moi je suis le premier à vous dire que c'est faux, moi je suis encore tenté ». Et je remercie le Seigneur parce que ça fait que ça me permet de me nicher encore plus en lui. Parce que je sais que sans lui, c'est terminé. Je reviens le Pascal des temps d'avant, des temps avant le fameux autrefois. Mais c'est cette puissance de Jésus-Christ dans notre vie qu'on laisse vivre qui fait que on n'a plus le désir de répondre aux tentations. Mais là, j'ai parlé des œuvres de la chair. Alors, quelles sont les œuvres de la chair? Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, l'excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je vous l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Et ça, on trouve ça en Galates, chapitre 5, versets 19 à 21. Mais je viens de parler d'une chose, mourir à soi-même. Qu'est-ce que ça veut dire mourir à soi-même? Est-ce qu'on comprend? Est-ce qu'on analyse? On a bien analysé ce que ça voulait dire? Est-ce que on l'entend parfois et on n'a pas vraiment la mesure de l'expression? Ah. En Matthieu 23, versets 10 à 12, « Ne vous faites pas appeler directeur, car un seul est votre directeur, le Christ. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Quiconque s'élèvera sera abaissé, et quiconque s'abaissera sera élevé. » Nous sommes morts à nous-mêmes, notre moi est mort lorsque les autres sont plus importants que nous, lorsqu'on est tout en bas. Lorsqu'on regarde les autres d'en bas. Jésus-Christ, c'est ce qu'il a fait. Il a lavé ses pieds, les pieds, et il a dit à, je crois que c'est à Pierre, il a dit, si je ne le fais pas, tu ne pourras pas comprendre l'œuvre que je suis en train d'accomplir. Lorsque nous sommes serviteurs, quel que soit l'acte à accomplir. Jésus-Christ était serviteur de l'humanité. Il savait que la finalité, c'était quoi ? C'est qu'il allait être crucifié sur la croix. Il était roi. Et il a accepté. Lorsque nous sommes soumis à l'autorité, quelle que soit l'autorité qui est devant nous. Moi, c'était un grand combat pendant des années. Et j'ai plié genoux. J'ai dit, quoi qu'il arrive, la seule autorité, c'est Jésus-Christ. Et si Jésus-Christ me donne des gens devant moi, je réponds, je dis « Ok, Seigneur, c'est toi qui m'as donné ces autorités, même si on le voit malheureusement par les temps qui courent, ces gens sont peu respectables, ces gens sont malhonnêtes. C'est ce qui va faire qu'un jour, votre comportement comme mon comportement, ils vont se poser des questions. Ils vont se poser des questions. Et si nous ne sommes pas comme cela, si nous ne sommes pas morts à nous-mêmes, c'est terrible, parce que en fin de compte, ça empêche l'œuvre de Dieu. Ça empêche que Dieu nous élève. Il ne peut pas nous élever. Il ne pourra jamais nous élever. Et ce qui nous rend également incapables de monter plus haut, c'est que on peut se rendre spirituellement inapte à suivre les préceptes de Dieu. On peut se rendre inapte. C'est incroyable, personne ne réagit. On peut se rendre inapte spirituellement. Et comment ? En agissant de façon antagoniste à la parole, c'est-à-dire à l'opposé de la parole, en refusant d'obéir à la parole de Dieu. C'est ce qui fait que nous sommes rendus sourds et aveugles à la parole de Dieu. Dites-moi si un jour vous êtes venu ici au culte et vous êtes ressorti du culte sans à aucun moment le Seigneur vous a parlé. Est-ce qu'on est capable de dire ça aujourd'hui, dans cette église? Est-ce qu'un jour je suis venu dans cette église et à aucun moment Dieu ne m'a parlé? Que ce soit au travers des prières. Encore ce matin, si vous avez fait attention aux prières, il y avait des choses très importantes que Dieu a dites. Au travers des témoignages, au travers de tout ce qui est dit, Dieu vous parle. Mais on est tellement, je ne vais pas dire absorbé, mais on est tellement des fois à l'opposé de la parole de Dieu qu'on n'entend plus les vérités de la parole. Et c'est ce qui empêche Dieu de nous élever. Et peut-être que ce matin, on doit vraiment reconnaître que, ben oui, Seigneur, viens dans ma vie et fais ton œuvre. Je sais pas, mais tout à l'heure, on était combien à chanter « Brise-moi, façonne-moi » ? Si je faisais un sondage, qui est prêt à être brisé ? Qui est prêt à être façonné par Jésus aujourd'hui, maintenant ? Parce que vous savez que briser, c'est grave. Il faut savoir que le Seigneur peut vous mettre plus bas que terre. Quand je dis tout à l'heure on a ce moi, mais il va vous mettre plus bas que terre pour casser ce moi. Et il ne va pas vous faire ça parce qu'il ne vous aime pas. Mais il va faire ça au contraire, c'est parce qu'il vous aime. Alors, c'est pour ça que je dis, des fois on fait des choses, on se lève, ben, Alex nous a dit de se lever, de chanter. Brise-moi, façonne-moi. Est-ce qu'on réfléchit ? Et je me suis longtemps posé la question. Et Kit me disait toujours, quand tu chantes, réfléchis à ce que tu chantes. Est-ce que tu es prêt à accepter ce que tu chantes ? Est-ce qu'on est prêt à accepter ? Et moi, je peux vous témoigner que j'ai dû accepter d'être brisé, d'être rendu plus petit, parce que dans l'armée, j'avais quand même un très haut rang. J'ai démissionné, je me suis retrouvé plus bas que terre, tout petit parmi les petits. C'est pas que je veux me glorifier, mais c'est pour vous expliquer que c'est une importance dans notre vie. C'est très important. Si vous avez toujours ce moi en vous, cette envie de vous révolter parce qu'il y a quelque chose qui est dit ou fait qui ne va pas dans votre sens, mettez-vous à genoux devant le Seigneur et dites-lui, brise ce moi. Parce que c'est un ordre, en fin de compte, quand Dieu dit monte ici, il faut être capable de l'entendre. Et là, je viens de vous dire que spirituellement, parfois, on se rend sourd et aveugle. Il faut entendre l'ordre de Dieu qui dit monte ici. Parce qu'il veut vous élever ce matin. Il veut que vous alliez, on le verra plus tard, il veut que vous alliez plus loin que là où vous êtes aujourd'hui. Est-ce que vous pensez, sincèrement, que le Seigneur vous appelle pour vous asseoir tous les dimanches sur une chaise ? Je ne pense pas du tout. Je ne pense pas du tout. Le Seigneur vous appelle pas pour être missionnaire en Afrique, pas pour être missionnaire en Afghanistan, mais pour être missionnaire de vos voisins, de vos amis, de votre famille. Il y a des gens qui pensent que mais je ne suis pas un bon chrétien parce que le Seigneur ne me demande pas de partir en Afghanistan ou en Afrique ou de faire une œuvre ou ceci ou cela. Mais merci Seigneur, parce que vous imaginez. Il y aurait des pays comme la France, comme l'Angleterre, comme l'Allemagne, qui seraient pauvres spirituellement. Le Seigneur nous appelle à être missionnaires là où on se trouve. Et s'il veut vous élever ce matin, c'est pour que vous ayez une autre vision. Parce que quand il dit à Jean, monte ici et je te ferai voir, c'est parce qu'il va lui ouvrir les yeux. Parce que Jean va entrer dans une dimension qu'aucun autre ne verra. Il n'y a que lui. Il va voir, il va lui emmener voir le futur. Et c'est ce que veut faire Dieu avec vous ce matin. Il veut vous élever, vous sortir de là où vous êtes. C'est pas merveilleux? C'est merveilleux de penser que l'amour de Dieu n'est pas que nous restions assis, nous faisions du nombrilisme. L'amour de Dieu est que viens, monte, monte et je te ferai voir. Donc tout à l'heure, je parlais du fait que Jésus doit intervenir peut-être dans votre vie ce matin pour faire tomber les écailles, comme il a intervenu à Saul de Tarse. Acte 9, versets 17 et 18. Ananias sortit et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saul en disant « Saul, mon frère, le Seigneur Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. » Au même instant, il tomba de ses yeux comme des écailles et il recouvra la vue. Il se leva et fut baptisé. Pourtant, quand on lit ce qu'avait fait Saul, il a tué des gens. Il a brûlé des églises. Et vous imaginez, Dieu l'appelle et dit, attends, là t'as fini maintenant, tu vas être mon serviteur. Et il y a des gens parfois dans leur vie se disent, mais moi, je me rappelle Annick, elle nous disait, c'est pas possible que Dieu s'occupe de moi, c'est pas possible que Dieu m'aime, j'ai fait trop de mauvaises choses. Vous imaginez, Saul de Tarse, il a fait des choses bien pires qu'Annick avait faites. Bien pires que vous, peut-être, vous avez fait. Parce que vous n'avez tué personne. Lui, il a tué des gens. Et Dieu l'a élevé. Il a enlevé les écailles sur ses yeux et il lui a donné une vision qu'il n'avait jamais auparavant. Donc, si donc d'aventure, on a une position, entre guillemets, humainement sainte, je peux vous dire que ça requiert quand même une sacrée acrobatie. Vous savez, toujours faire attention à ce qu'on dit, toujours attention à ce qu'on fait, parce que les gens vont vite voir que, en fin de compte, ce qu'on est en train de dire, en train de prêcher, ça n'a rien à voir avec ce qu'on est réellement. Donc on fait attention. Et on est en perpétuel équilibre inconfortable. On est sans arrêt. On est en train de... Et un jour, qu'est-ce qui se passe? La chute. Parce que la chute va arriver. Ça, c'est clair, la chute arrivera. Et après, ça sera difficile de rendre des comptes à Dieu, mais en plus à toute l'assemblée. Parce qu'il faut demander pardon. Parce qu'il faut expliquer pourquoi on n'est pas comme cela. Et c'est important. Pourquoi ? Parce que c'est une des raisons pour laquelle Dieu ne peut nous élever. C'est une des raisons. Mais l'œuvre de Dieu, le fait que Dieu nous élève, il nous élève, mais d'une manière incroyable. Et il ne nous élève pas dans une cible en disant, tiens, sur une cible d'une montagne, en disant, tiens, tu te débrouilles, cramponne-toi comme tu peux, et puis après, on verra bien. Je repasserai dans une semaine pour voir si tu es toujours accroché. Non, c'est faux. Lorsqu'on est élevé par Dieu, on trouve une vaste plaine. C'est-à-dire, vous êtes dans un repos, vous êtes dans la quiétude, vous êtes proche de Dieu. Vous êtes vraiment proche de Dieu. Et là, j'aimerais vous poser une question. Est-ce que vous avez déjà vécu cette expérience de monter et de toucher les lieux célestes. Lorsque dans un moment de prière, lorsque dans un moment de louange intense, vous arrivez à toucher le ciel. Et je ne parle pas du ciel bleu, mais je parle des cieux, de toute cette zone céleste. L'impression de ne plus vous appartenir, l'impression d'être transporté dans une quiétude, dans une paix parfaite, dans une chaleur, dans un amour incroyable. Il n'y a que la louange et la prière qui peuvent faire cela. Et vous sentez la présence de Dieu. Et quand on parle d'être proche de Dieu, c'est comme si vous avez Dieu qui est à côté de vous. Est-ce que vous avez vécu cette expérience? Et je vous invite vraiment à essayer ces choses, vous mettre devant le Seigneur. Peut-être que, comme jamais, vous ne l'avez fait. Commencez à dire « Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. » Et répétez, répétez, jusqu'à temps que ce n'est plus vous qui prie, mais votre cœur. Et là, je ne suis pas en train de vous parler d'un phénomène de lévitation. Je vous parle vraiment de toucher le ciel. Je vous invite vraiment à faire cela. Parce que là, vous allez atteindre une proximité avec Dieu. Et là, le Seigneur va vous prendre, il va vous élever, il va vous montrer. Parce que c'est ce qui va arriver, je vous le dis. Il va vous montrer le ciel. Vous allez me dire, mais comment c'est possible? Il va vous le montrer en esprit. Et vous allez avoir cette faculté, vous avez déjà vu cette photo, on voit deux doigts, vous avez l'impression à un moment donné de toucher Dieu. Mais il n'y a qu'en esprit qu'on peut faire cela. Et je ne suis pas en train de vous donner une nouvelle science, une nouvelle... Parce que tous ceux qui ont fait ça, il y en a dans cette assemblée qui ont déjà vécu cette expérience. Je vous invite à le faire parce que ça remet beaucoup de choses en question. Ça vous remet, vous dire que vous êtes sauvé. Parce que Satan a cette faculté de toujours remettre en question votre salut. Mais si vous vous mettez vraiment devant le Seigneur, que vous avez à cœur cette prière, que vous avez à cœur de rechercher la face de Dieu, Dieu vous dira, monte ici. Il vous dira, monte ici. Et vous allez monter. Et Dieu nous appelle toujours à monter plus haut. Il suffit d'une chose. Chacun, faites peut-être ça maintenant, faites peut-être ça chez vous. Comparez votre vie spirituelle de maintenant à votre vie spirituelle d'il y a un an. Comparez comment vous étiez il y a un an. Et vous allez voir que à un moment donné, Dieu vous a appelé à monter plus haut. Il a dit des choses, il a fait des choses dans votre vie pour vous inciter à monter plus haut. Et il y a une chose qui est très importante, et ça j'insiste parce que je vous l'ai déjà dit, et j'essaie, je dis bien, j'essaie d'expérimenter ça dans ma vie, c'est lorsque le Seigneur parle, lorsqu'il nous révèle une vérité, c'est pas attendre qui nous en révèle une autre derrière, mais c'est déjà de s'appuyer sur cette vérité. C'est-à-dire que lorsque le Seigneur me parle ou vous parle, prendre ce qu'il a dit et l'appliquer à sa vie. Si vous montez un escalier, à moins d'être balèze, et de sauter les deux pieds marche en marche, ça va un petit... c'est quand on est jeune, on y arrive. Mais quand on avait passé un certain âge, on a du mal quand même. Donc on est obligé de monter marche après marche. Et si vous regardez bien le mouvement, à un moment donné, on est obligé de s'appuyer sur la marche d'en bas pour aller plus haut. C'est ce que Dieu veut faire. Dieu, tout doucement, il nous donne des choses. Et il veut qu'on ingurgite ces choses et qu'on s'appuie sur les choses qu'il nous a données. Et ensuite, il passe à autre chose. Et ainsi de suite. Et ce qui fait que, naturellement, on monte. Naturellement, on monte. Il faut pas être comme ces personnes qui achètent un nouvel appareil, vous savez, super appareil, qui commencent, qui le branchent, qui essayent le faire aller. Mais ça marche pas, je comprends pas. Pourtant, le voisin a le même, il fonctionne. Mais ils ont oublié de faire une chose. C'est d'ouvrir le mode d'emploi. Parce qu'il y a toujours le petit bouton qui était derrière, qu'on a oublié de mettre en marche. Vous savez, comme sur les ordinateurs, vous avez un bouton devant, mais on oublie aussi que parfois derrière, il y en a un, marche arrêt. Alors des fois, on appuie devant, ça ne marche pas, on a oublié d'appuyer sur suite derrière. Puis on va voir le dépanneur, ça nous coûte 50 euros, alors que ben, c'est simple, il suffit juste de faire marche arrêt derrière. Le Seigneur, c'est simplement ce qu'il veut. Il veut simplement qu'on prenne sa parole, voilà Seigneur, tu m'as dit quelque chose, je vais me l'appliquer sur mon cœur. Pas dans ma tête, c'est sur mon cœur. Je vais obéir à ce que tu dis. Et c'est important d'expérimenter ces choses dans l'obéissance et la droiture. C'est l'une des conditions pour laquelle Dieu nous élèvera. Comment peut-on voir, c'est une des dernières questions, comment peut-on voir notre avancée spirituelle? C'est pas le fait d'être tombé en arrière. C'est pas le fait d'avoir chuté à un moment donné dans notre vie qui est important. Pour le Seigneur, c'est absolument pas important. Ce qui est important, c'est qu'on soit capable de discerner à quel moment on a chuté et pourquoi on a chuté. C'est important pour Dieu, ça. Si on vit d'une manière complètement dissolue, ça veut dire que pour nous, le péché est normal dans notre vie. Daniel le dit souvent. Il y a des gens qui vivent dans le péché, des chrétiens, hein. Et ben, tout va très bien dans leur vie. Ils vivent avec le péché. Mais Dieu nous demande une chose simplement, c'est de dire, Pascal, regarde, c'est à ce moment-là que tu as péché. C'est à ce moment-là que tu as chuté. Analyse, regarde pourquoi tu as chuté. Et à ce moment-là, il nous prend, il nous élève. Parce que l'expérience qu'on aura vécue nous aura servi de leçon. Mais si on est incapable de discerner, ben on continue. Mais on continue dans la petite vallée. Parce que Dieu ne nous élèvera pas. Pourquoi? Parce que c'est notre moi qui nous aveugle, dire « Mais non, c'est pas possible, j'ai pas péché, j'ai pas chuté, j'ai la vérité, je lis la parole. » Dieu attend de nous qu'on soit capable de discerner les choses qui ne vont pas dans nos vies. Et si on prend Genèse chapitre 18, verset 17, l'Éternel se dit à un moment donné, mais cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? C'est un moment où, vous savez, Abraham s'est complètement détaché du monde. Il est entré dans les secrets de Dieu. Il avait une foi en Dieu incroyable. Et cette foi, ce fait d'être détaché du monde, a fait qu'il est devenu le confident de Dieu. Et en psaume 25, verset 14, « L'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent, et son alliance leur donne instruction. » Son alliance. Abraham, au moment où il a vu ça, bien sûr, on connaît, c'est au moment de Sodome et Gomorre. Abraham savait exactement ce qui allait arriver à ces villes. C'est incroyable, parce que Dieu lui avait révélé. Ce matin, Dieu veut vous révéler des choses. Il veut vous élever et vous révéler des choses. Et plus tard, sans chercher une place dans le monde qui va être jugé, il va devenir le dépositaire d'une promesse magnifique, qu'il allait être le père d'une nation, d'une multitude et d'une multitude. Et ça, il va le transmettre fidèlement à sa descendance. C'est pas parce que c'est Abraham. Dieu veut faire de ça avec vous ce matin. Les mêmes choses. Il veut pas vous abaisser, il veut vous élever. Monte ici et je te ferai voir. Et autant qu'il dit à Abraham, cacherai-je? Enfin, il se dit, mais est-ce que je vais cacher ces choses à Abraham? Et nous, il peut nous le cacher. Il peut nous cacher plein de choses. Spirituellement, il peut nous brouiller notre vue tant qu'on n'a pas un caractère capable d'assimiler ce qu'il est en train de nous dire. Tant qu'on n'a pas ce caractère qui est capable de comprendre et de voir ce qu'il est en train de nous révéler. Et il y a ça, ces choses ne se font que par l'esprit. Tout à l'heure, on a parlé d'une foi. Le Seigneur nous donne une foi. Et chacun, on a la responsabilité de faire grandir cette foi. C'est un peu, en quelque sorte, le talent. On est appelé à faire fructifier, à faire grandir cette foi. On est appelé à s'élever dans la foi. Et ce matin, est-ce qu'on est encore au lait? Est-ce qu'on en est encore au lait? Est-ce qu'on en est encore aux petites choses d'enfant parce qu'on est incapable de comprendre plus, parce que notre esprit est brouillé? Est-ce qu'on est incapable de monter plus haut? Est-ce qu'on se sent incapable de monter plus haut? En Hébreux, chapitre 5, verset 13, il est dit « Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. » Est-ce qu'on aspire ce matin, chacun, à monter plus haut? Est-ce qu'on a ça vraiment à cœur? Ou alors est-ce qu'on veut errer dans la vallée? Il ne faut pas oublier une chose, et ça, j'ai voulu insister vers la fin de cette prédication en disant que Dieu ne fait monter plus haut que ceux qui acceptent d'être abaissés. Quand on lit Luc, chapitre 14, verset 10, « Mais lorsque tu seras invité, va te mettre à la dernière place, afin que quand celui qui t'a invité viendra, il te dise, « Mon ami, monte plus haut. » Alors cela te fera honneur devant tous ceux qui seront à table avec toi. Dieu va vous inviter si vous vous abaissez, si vous vous humiliez. Il va vous inviter à monter plus haut. Aspirons donc ce matin à être élevés par Dieu. Il veut nous faire monter beaucoup plus haut que là où nous sommes aujourd'hui. Il ne faut pas rester à l'étage inférieur, à l'étage où on est. Il ne faut pas se satisfaire de cette petite foi, de nos petits train-train, je vais dire, de chrétiens. Il faut exiger de Dieu, parce qu'on peut exiger de Dieu. On peut dire, mais Seigneur, j'en ai pas assez. Révèle-toi dans mon cœur. Révèle-toi. Si on fait, c'est un peu lié à ce que je disais tout à l'heure, si on fait cette prière qu'on demande réellement à Dieu, Seigneur, révèle Jésus-Christ, l'œuvre de Jésus-Christ dans mon cœur. Révèle cette œuvre. Il va le faire. Il va le faire. Il vous mettra dans le cœur l'idée de la croix comme jamais vous n'avez vu et entendu. Vous allez vous retrouver à pleurer devant le sacrifice de Jésus-Christ. Et vous allez entrer dans une dimension que peut-être vous n'êtes jamais entré. Et le Seigneur dira, maintenant, tu peux monter et je te ferai voir. Amen. Seigneur, je te rends grâce. Je te rends grâce pour ton amour, Seigneur. Seigneur, je te rends grâce parce que tu ne demandes pas à ce que nous nous satisfaisions de notre foi de maintenant. Mais Seigneur, tu veux nous faire monter plus haut. Tu veux nous faire entrer dans des dimensions que peut-être nous n'avons jamais connues. Parce que tu nous aimes. Comme tu aimais Job. Tu n'écoutais pas les discours qui étaient autour. Mais tu regardais le cœur de Job. Et tu as mis Job devant ses responsabilités. Job a reconnu que tu étais Dieu, que tu étais là avant lui, que tu étais capable de vie et de mort. Et Seigneur, tu l'as restauré. Et je sais ce matin que tu veux restaurer des vies. Tu veux, Seigneur, agir dans le cœur de ceux et celles qui ont des doutes sur leur foi. Seigneur, tu lances cette invitation. Monte ici et je te ferai voir. Amen.